set to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode du Poundcast de Panthers FR, un épisode qui fait suite à l'émission précédente, la numéro 29, qui était consacrée à l'attaque des Panthers version 2021. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur la défense avec moi-même, Guillaume, et toujours Thomas et Mathieu, qui m'accompagne pour cette émission. Bonsoir messieurs.
Salut.
Bonsoir Guillaume.
Donc Mathieu, même chose que je t'avais demandé pour l'attaque, qu'est-ce que tu retiens de la saison des Panthers d'un point de vue défensif? Est-ce que tu as été un petit peu plus satisfait par ce côté du ballon que tu ne l'avais été sur l'attaque?
Oui, forcément, bien plus satisfait. Ça s'est beaucoup mieux passé côté défense. Mais c'était quand même un petit peu la trajectoire que ça prenait déjà avant la saison. On sentait que côté défense, ça allait un peu mieux se passer. Je suis quand même obligé de dire que j'ai des déceptions, en particulier sur la ligne défensive. Bon, on va avoir l'occasion de revenir un peu en détail là-dessus, mais elle a pas performé autant que je l'aurais espéré personnellement. Après, sinon, plutôt satisfait. Ouais, là, en tête, j'ai pas forcément de, à part rien possible, j'ai pas forcément de points gênants. Et voilà, je peux finir juste par dire que je suis assez enthousiaste pour l'année prochaine. Entre autres pour pouvoir voir à nouveau JC Horn. Parce que voilà, je pense que cette défense a encore plus de potentiel que ce qu'on a vu pour l'instant, notamment à cause des blessures. Et donc, éventuellement, l'année prochaine, on aura même encore mieux. Donc, c'est plutôt bien.
Oui, c'est vrai que on avait eu une première draft de Matt Rhule il y a 2 ans de ça qui était 100% orientée sur la défense. Et là, cette année, on a commencé à vraiment voir les résultats avec en plus quelques signatures et quelques arrivées à l'intersaison en avril qui avaient été très intéressantes, dont une dont on va parler tout de suite, hein, puisqu'on va commencer, comme pour l'attaque, on va regarder un petit peu poste par poste ce qui s'est passé. On va commencer au niveau du pass rush. Et je suis obligé de me tourner vers toi, Thomas, parce qu'on a notamment beaucoup vu Hassan Reddick, l'ancien Cardinal, qui t'a beaucoup plu comme signature au moment de son arrivée et qui a conforté, je pense, tes attentes cette saison.
Ah ouais, non mais totalement. Enfin, ce joueur, c'était une de mes satisfactions défensives. J'ai critiqué dans le dernier podcast, j'ai critiqué Matt Rhule sur l'aspect le front office en général sur la ligne offensive, sur la construction de cette ligne. Autant défensivement, ils ont quand même été nous chercher quand même des bons joueurs. Hassan Reddick, pour moi, c'est vraiment c'est super d'avoir réussi à l'avoir, parce que le mec, il nous fait quand même 11 sacs, 68 plaquages, 2 fumbles forcés. Voilà, c'est clairement un joueur d'impact. Et Je vais spoiler un peu, mais clairement, si j'ai un move à faire, première chose à faire, c'est que je le signe pour la saison prochaine. Mais ouais, clairement, Hassan Reddick, il a atteint tous mes niveaux d'attente, quoi.
Même parce qu'il avait signé un contrat d'un an seulement, donc il est en agent libre maintenant, et effectivement, il va aller chercher un gros contrat. À voir si les Panthers pourront s'aligner, parce que c'est vrai que en termes de cap space pour l'instant, c'est encore un petit peu ric-rac. Alors on sait que ça peut être amélioré et ajusté, et qu'il y a des possibilités de créer de la place pour rentrer des contrats. Mathieu, de ton côté, est-ce que tu as été satisfait aussi de Reddick? C'est ce que tu attendais, ou alors il a dépassé largement tes attentes?
Moi, j'attendais pas grand chose, parce que j'avoue que je connaissais pas en détail le joueur avant qu'il arrive, et du coup je partais sans trop d'espoir et enfin sans trop d'espérance particulière, parce que voilà, je le connaissais pas trop, et j'ai été vachement surpris et super satisfait de sa saison. Je l'avais pas vu son arrivée comme l'arrivée d'un joueur majeur, hein, j'étais peut-être passé à côté de quelque chose, mais plutôt très content. Mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, hein, il a vraiment fait plaisir à voir. Et pour moi, en fait, il a dépassé Burns dans la hiérarchie des pass rushers, des edges. Et ça, j'étais loin de l'imaginer avant la saison. Donc très content de Reddick. Et du coup, bah, je transitionne un peu sur Burns, qui par contre m'a un petit peu déçu. Et alors, je suis pas sûr que ce soit un problème de joueur. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une question de coaching. D'ailleurs, le coach de la ligne défensive a été remercié également, comme le coach de la ligne offensive. Donc à voir par la suite, mais voilà, j'ai trouvé Burns un peu plus en dedans par rapport à ce qu'il nous avait montré les saisons précédentes, et j'espère que c'est que des petits soucis qui pourront être corrigés, quoi.
Bah le duo Reddick Burns a été très efficace, hein. À eux deux, ils combinent 20 sacs, et je crois que les Panthers, la défense des Panthers en entier ont fait 37 ou 38, quelque chose comme ça, il me semble. Donc ils sont responsables de plus de la moitié des sacs à eux deux. Alors, vous allez me dire, c'est normal, c'est un peu leur rôle premier. Mais effectivement, oui, on a vu eux deux. Ils sont, je les ai trouvés à l'image vraiment de cette défense, c'est-à-dire très athlétique, très rapide, très, très physique. Une défense qui... tout au long de la saison, ça a été un thème récurrent qu'on a mentionné dans de nombreuses émissions. Pendant trois quarts du match, était, je vais dire, élite presque, à de rares exceptions près. Il y a des matchs où ils ont été un peu moins à l'aise, mais en moyenne, sur les trois quarts du match, c'était vraiment une top défense. Et malheureusement, le dernier quart était un petit peu plus compliqué, notamment de par le fait que ils avaient passé beaucoup de temps sur le terrain lors des trois premiers quart-temps. La petite stat de cette défense, c'est quand même qu'elle n'a pas encaissé le moindre touchdown sur la première possession adverse de toute la saison. C'est la seule défense de la Ligue à l'avoir fait. Alors on essaie de trouver un peu des satisfactions là où on les trouve. Si je pouvais, moi, avoir un tout petit reproche peut-être sur Brian Burns, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu l'an dernier, ça s'est confirmé un petit peu cette année. C'est son incapacité parfois à finir les sacs et les actions. Il a tendance à des fois avoir des sacs, je vais pas dire tout fait, mais où le quarterback lui échappe. C'est arrivé plusieurs fois cette année, je l'avais déjà vu un petit peu l'an dernier, donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien le voir progresser, parce que c'est un joueur que j'adore moi aussi. Mais oui, clairement, eux deux, ils ont vraiment été la pointe de cette défense, le fer de lance de cette défense, notamment au niveau du pass rush. Une autre petite pensée pour toi, Thomas, parce que Yetur Grosmatos, qui est un autre joueur que tu aimes beaucoup, a commencé à montrer des trucs, hein, sur la fin de saison.
Ouais, ben on l'a pas vu sur toute la saison, parce que là, il y a eu des petits pépins. Il me semble qu'il a été un peu blessé. Mais voilà, en fait, il a quand même réussi à nous faire 18 tacles solo et 3,5 sacs, ce qui est une très bonne chose. J'espère en voir un tout petit peu plus l'an prochain. Mais bon, après, voilà, comme il y a eu la satisfaction Reddick, il y a clairement pas de déception sur le Grosmatos. Ça se complète plutôt bien et je pense qu'on a vraiment du talent à l'heure actuelle, en fait, sur les deux extrémités de cette ligne, quoi.
Ouais, avec Morgan Fox aussi, hein, l'arrivée des Rams à l'intersaison, qui pareil, dans un profil un petit peu similaire, un peu hybride que Yetur Grosmatos. Ils ont été plutôt pas mal. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué à l'intérieur de la ligne, et encore, on a vu Derrick Brown, on a vu Dequan Jones aussi, qui a été plutôt une belle signature. Le rookie Devion Nixon avait montré des choses intéressantes aussi avant de se blesser. Qu'est-ce que vous retirez de la prestation de ces trois joueurs-là? Mais c'est vrai qu'on pourrait inclure effectivement Grosmatos et Fox aussi dans cette partie.
Derrick Brown, je trouve qu'il commence à prendre un peu plus d'ampleur par rapport à sa première saison. Après, je ne sais pas si c'est... Enfin, je ne pense pas qu'il soit déjà le joueur dominant qu'on attend. Après, il faut faire attention à son rôle aussi, parce que je pense pas que la volonté du staff soit d'en faire un lineman axé sur le sac. Je pense pas qu'il suive un modèle à la Aaron Donald, par exemple. Je pense pas, peut-être plus un Si je me souviens, je crois que c'était Starla Tulele, qui avait un peu un profil de qui pour moi ressemble plus à Derrick Brown. Après bon, peut-être que je me trompe, mais pas encore aussi imposant qu'on l'attendrait. Mais pas non plus trop déçu parce que je trouve qu'il s'améliore par rapport à l'année dernière. Mais il y a encore voilà, il y a encore de la progression possible dans Derrick Brown.
Ah ouais, plutôt d'accord avec Mathieu. Ouais, voilà, Derrick Brown, il a un peu progressé cette année. Mais pour moi, il va continuer. Puis voilà, on va changer de personnel de coaching sur cette ligne défensive. Et pour moi, ça va être un plus, du moins j'espère, parce qu'on a franchement de la qualité. Et des fois, on a vu que bah, la défense contre la course, c'était un peu notre point faible. On avait l'impression par moment que ça allait mieux, mais des fois en fait on retombait totalement dans nos travers. Mais je pense vraiment qu'on a cette qualité pour essayer de combler tout ça, quoi.
Oui, clairement, Derrick Brown, on l'avait mentionné en début de saison que l'année dernière, il avait connu une année rookie un peu compliquée, mais que c'était difficile aussi à juger parce qu'il avait eu, pour ainsi dire, personne à côté de lui, et donc la défense était très, très focus sur lui. Là, c'est vrai que le fait d'avoir un Dequan Jones ou alors un Yetur Gross-Matos, un Morgan Fox, comme on disait, ou un Devion Nixon à côté, ça a bien aidé. Devion Nixon, j'ai très hâte de le voir revenir parce qu'il avait montré vraiment des choses qui, moi, m'avaient plu. On avait beaucoup aimé au moment de la draft, si je me rappelle aussi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, j'étais assez content. Après, ouais, je te rejoins, Thomas, sur cette histoire de run stop sur la fin de saison. Ça commençait à être un peu compliqué, notamment le match contre Washington, je me rappelle, où ça avait été assez douloureux de ce niveau-là. Donc, il faudra continuer à bien cadenasser ça, mais ça va se faire aussi en combinaison avec le rideau de linebacker sur lequel je vais basculer, puis à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter sur l'intérieur de la ligne. Mais au niveau des linebackers, on a eu un très grand Shaq Thompson, je pense qu'on peut le dire comme ça. Sa meilleure saison depuis qu'il est chez nous. Pareil, Thomas, je crois que tu l'aimais beaucoup, donc tu as dû apprécier sa saison.
Ben ouais, totalement. Et puis tu vois, en fait, j'avais un peu comment dire, j'avais un peu été déçu entre guillemets sur les saisons précédentes où je me disais, ben, après le départ de Kikli et de Thomas Davis, je m'étais dit il va avoir un rôle plus important. Et c'est un rôle en fait qu'il a peut-être eu un peu de mal à prendre au début. Autant cette année, ben, c'était un catalyseur de cette défense, c'est-à-dire c'était un peu la clé de voûte. Ça tournait bien, dès qu'il était sur le terrain, on le sentait, il y avait de l'envie, il y avait de l'intensité. Et puis ouais, comme tu dis, voilà, c'est sa meilleure saison chez nous. Quand même 104 plaquages et 2 sacs et 2 interceptions, ce qui en fait une très bonne ligne. Non, franchement, sur le corps de linebacker, je pense qu'on peut être plutôt satisfait bah, en grande partie, notamment grâce à Shaq, quoi.
Ouais, tout à fait d'accord. Il est enfin à la place où on l'attendait. Ces dernières saisons, on était un peu frustrés parce que ben, on prenait pas forcément le rôle dont on attendait prendre. Mais là, je pense que cette saison, ça y est. Et puis, j'ai pas forcément de doute sur sa capacité à maintenir ce niveau-là. Donc, plutôt content de Shaq. Jermaine Carter un peu plus en dedans par rapport à ce qu'on avait espéré parce qu'il me semble que pendant la pré-saison, il avait atteint un peu un nouveau statut. Il avait fait de super matchs en pré-saison. Et au final, bah, il était un peu plus transparent. Après, moi, je le vois pas trop comme une déception non plus, parce que bon, c'est pas non plus en l'état un grand joueur sur le papier, mais ouais. Le niveau linebacker, enfin, je suis plutôt content. Et puis peut-être qu'on peut transitionner rapidement sur Frankie Louvu, qui est une bonne surprise quand même.
Ah, clairement, moi c'est ma alors Shaq Thompson bien sûr, hein, mais Frankie Louvu, c'est vraiment la surprise pour moi, presque autant en termes de proportion, j'allais dire, d'étonnement que Hassan Reddick. Quand on l'a signé, j'attendais pour ainsi dire pas grand-chose. Surtout qu'en plus, c'était au moins le 3 ou 4e joueur des Jets qu'on allait chercher. Je comprenais toujours pas pourquoi on allait chercher autant de joueurs des Jets, mais bon. Et clairement, ça a été... voilà, on parlait, quand on avait eu le retour de Cam Newton, de quelqu'un qui avait vraiment énergisé toute cette équipe. Du côté défense et special team, Frankie Louvou sur le terrain, il n'était pas souvent là, mais dès qu'il était là, il faisait un play, quoi. Et je crois que t'as beaucoup aimé ça, notamment Thomas. Je crois que ça a été un de tes chouchous aussi cette année.
Ah, mais Frankie Louvou, totalement. J'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est notre premier joueur depuis Belle Lurette à avoir marqué un touchdown, sur punt bloqué. Donc ça faisait quand même un sacré moment qu'on n'avait pas vu ça. Puis voilà, c'est un playmaker, le gars. Il est certes pas toujours sur le terrain, mais quand il est là, on sent vraiment qu'il est là, et c'est... On sent qu'il y a une belle action qui déroule derrière, et franchement, je pense que c'est... Bon, Sam Darnold, c'était clairement pas un cadeau de la part des Jets, mais là, c'est une bonne acquisition du côté de New York.
Et pour... alors, juste pour faire un petit point stat avec Frankie Louvou, alors, j'ai pas son temps de jeu moyen... par contre, c'était pas un titulaire à temps plein. Il fait quand même 41 plaquages, dont 8 pour perte, et un fumble forcé et 5 quarterback hits. Donc vraiment un vrai rôle. J'aurais presque pu le mettre dans la catégorie des pass rushers, tellement il était utilisé effectivement dans ce rôle de pass rusher, de fonceur. Il était beaucoup moins en couverture, mais il était très bon dans ce rôle, et je pense que le coaching staff va être intéressé pour le re-signer, lui qui est agent libre à l'intersaison. Voilà, ça va être à suivre.
Bah, sur son temps de jeu, si tu veux l'info, il a joué 16 matchs, il en a démarré 4. Mais là où c'est intéressant, c'est sur les snaps. Il est en défense que sur 24% des snaps. Donc il y a encore une marge de progression énorme. Il joue un quart des snaps. Et en special teams, là, il est sur 70% des snaps en special teams. Donc il est, il y a encore du côté de la défense, pour Louvou, il y a encore beaucoup à voir, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors après, je sais pas s'il serait aussi performant sur un temps de jeu plus important, hein, mais après, ça c'est toujours la question. Mais effectivement, voilà, un quart, il est là sur un quart des snaps en défense, et voilà, j'ai donné ses stats tout à l'heure. Faudrait regarder, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient des stats de ce calibre-là en jouant aussi peu. Donc clairement, un vrai bel apport et une vraie belle surprise au niveau des recrutements. Des recrutements, on en a eu pas mal aussi au niveau des cornerbacks pour les Panthers. Alors on avait toujours Dante Jackson qui était cornerback numéro 1. Pour le coup, Mathieu, je crois que tu étais notamment de nous trois peut-être celui qui avait le plus de doutes, enfin on en avait tous, mais le plus d'attente de confirmation pour Dante Jackson. Est-ce qu'il t'a satisfait malgré sa fin de saison prématurée?
Ouais, il m'a plutôt satisfait. C'est vrai que moi j'étais mitigé sur Dante Jackson parce que c'est un des joueurs les plus frustrants qu'on ait pu voir, en tout cas chez les Panthers, parce qu'il il était capable du meilleur et juste après du pire. Et même j'avais l'impression qu'il faisait quand même plus de pire que de meilleur. Mais là finalement cette saison, il a réussi à trouver un rôle un peu plus avec un peu plus d'envergure que ce qu'il avait auparavant. Il est clairement devenu, alors bon, je sais pas s'il était vraiment avant, mais là cette saison il était clairement, en tout cas quand il était là, le CB numéro 1 pour moi. Et franchement, on a vu sur les matchs qu'il a joué une saison très sérieuse. Moi j'ai trouvé, c'est surtout ce côté-là qui m'a plu. Jusqu'à présent, on avait l'impression que des fois il se déconnectait du match, ou voilà, il manquait un truc. Et là, je trouve qu'il a réussi à faire des belles prestations du début à la fin. Il a certainement été galvanisé par la défense de manière générale, qui était très bonne. Mais il a aussi apporté sa pierre à l'édifice de ce côté-là. Et j'ai très très hâte de le retrouver l'année prochaine. Alors, je me souviens plus où est-ce qu'il en est dans son contrat. S'il en est à sa cinquième année ou s'il a déjà dépassé. Je ne sais plus du tout, j'ai un peu perdu là-dessus.
Eh bien, il est agent libre, justement. Je vais transitionner là-dessus, voilà. Puisqu'il va y avoir un choix entre lui. Alors, il n'a pas de cinquième année parce qu'il avait été drafté au deuxième tour. Mais voilà, il a fini ses quatre années de contrat. Et il va donc demander un gros salaire qui va peut-être être compliqué à donner si les Panthers choisissent de conserver Stephon Gilmore. qu'ils ont acquis en cours de saison, alors qui a montré des belles choses, hein, lui aussi, on sait le niveau de Stephon Gilmore. Il y a une différence d'âge entre les deux. Est-ce que, alors justement, ça va être ma question, qu'est-ce que vous feriez, vous, entre les deux, entre Dante Jackson, Stephon Gilmore? Est-ce que vous essayez coûte que coûte de garder les deux, quitte à devoir laisser partir un Son Reddick? Ou alors, sinon, entre les deux, est-ce que vous, lequel des deux vous conservez?
Ah, la question est dure sur ce coup-là. Ouais, c'est... Parce que, bah, la qualité de Gilmore, on la connaît. Après, voilà, sur la saison, chez nous, il joue dans 8 matchs. Il en démarre 3. Il a été gêné, parce qu'il était en retour de blessure. Mais c'est toujours un cador, quoi. Enfin, c'est une valeur sûre, ce gars-là. À côté de ça, on a Dante Jackson qui nous a montré quand même des choses bien meilleures cette saison. Enfin, qui nous a confirmé certains points qu'on avait besoin de voir confirmés. J'ai envie de te dire qu'on a un JC Horn, on a un tout petit peu de monde à l'arrière, donc je dirais pourquoi pas garder Gilmore plutôt que Dante Jackson. Après, en y réfléchissant, peut-être que j'inverserai la tendance, mais je me dis que voilà, on a JC Horn qui va revenir de blessure, donc autant essayer d'avoir peut-être un côté un peu un vétéran plus un presque rookie, quoi.
Ah ben clairement, après des années où on a eu un backfield défensif plus que suspect, même ne serait-ce que l'an dernier, hein, si je dois vous rappeler que c'était Troy Pride, je crois, notre cornerback numéro 2 lors du premier match. Donc voilà, c'était compliqué. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, probablement trop. Effectivement, bah, il est très possible qu'il y ait un choix à faire entre Dante Jackson et Stephon Gilmore. Je sais pas, effectivement, ça dépend peut-être aussi de ce que tu vises comme échéance. Si tu penses pouvoir être compétitif dans les 3 ans, bah à ce moment-là, peut-être garder plutôt un Gilmore. Si tu penses qu'il te faut encore 5 ou 6 ans, peut-être partir sur Dante Jackson, je ne sais pas. Mathieu, tu as un avis là-dessus?
Ouais, c'est dur. Moi, au début, j'avais plutôt tendance à vouloir garder Dante Jackson et Stephon Gilmore. Quand Thomas a rappelé que JC Horn revenait du coup la saison prochaine, je suis plus d'avis de laisser partir Dante Jackson. Parce qu'en plus, de toute façon, même si on va pas être compétitif dans les 3 ans, ça c'est sûr, enfin, moi j'y crois pas. Je pense que Stephon Gilmore apporte quand même une expérience super intéressante pour les jeunes joueurs. Donc ça peut être, on peut peut-être capitaliser là-dessus. Ça va forcément dépendre du contrat. Et si Dante Jackson est très gourmand, bah le choix va même pas se poser. On n'a pas non plus une liberté d'action énorme là-dessus.
Alors, je pense qu'en termes de contrat, les deux seront à peu près dans le même range. On sera autour des 15 millions. De moyenne sur la saison au minimum, avec l'évolution du cap et tout. Il y a un joueur sur lequel je voulais m'attarder un petit peu plus longuement, moi, au niveau de ce backfield défensif, c'est CJ Anderson, l'ancien premier tour de draft des Jaguars, ancien top 10, il me semble. On n'a pas eu l'occasion de t'entendre t'exprimer sur son arrivée, Mathieu. Est-ce que tu as aimé le move? Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu de CJ Anderson par la suite? Ou alors tu es plutôt déçu?
Non, moi j'ai bien aimé le move. En fait, j'ai été un peu surpris. C'est arrivé au moment où l'équipe se débrouillait pas trop mal et d'un seul coup on s'est mis à. On a fait venir Anderson, après un peu plus tard on a fait venir Gilmore. Enfin, on avait l'impression qu'on était en mode win now, alors que bon, au final ça s'est passé très différemment. CJ Anderson, j'étais content du move du coup. Après, au final, on en a pas trop vu, hein, finalement, parce que bah il a mis quelques, alors, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il est arrivé en étant un peu blessé. Il a mis quelques semaines avant, en plus, de pouvoir bien s'intégrer à l'équipe, etc. J'avais pas forcément trop d'espoir pour cette année, mais j'ai hâte de voir l'année prochaine si est-ce qu'il peut être un cornerback qui mérite un premier tour de draft ou est-ce que c'est un peu une déception. Je pense pas qu'on prend un trop gros risque dessus, dans tous les cas. Donc j'ai hâte de voir l'année prochaine. Là, cette année, j'ai pas forcément d'avis, mais je suis pas déçu, je suis pas non plus satisfait parce que je pense pas qu'il ait prouvé énormément de choses. Mais je suis plutôt pour l'année prochaine, moi, que j'attends.
Ouais, je te demandais parce que alors moi pour le coup j'ai été très déçu. Alors sur le coup
Ouais.
j'aimais beaucoup le move. Effectivement je trouvais que c'était intéressant. Après c'est vrai que de ce que j'en ai vu sur la fin de la saison, je commence quand même à avoir des gros doutes. C'est vrai que juste en plus après le trade, il y a eu les rumeurs comme quoi il était peut-être pas super motivé. Par, enfin, il avait des doutes sur la suite de sa carrière, il savait pas trop s'il voulait continuer ou quoi. Alors bon, il était à Jacksonville, alors ça peut expliquer cela. Mais j'avoue que j'ai été quand même très déçu de ce que j'ai vu sur la fin de la saison. Et j'espère vraiment qu'avec une off-season et un
C'est ça.
entraînement, ça puisse progresser, parce que sinon, ça sent quand même le bust. Enfin, en
Moi,
tout
je
cas,
compte
c'est
sur
mon
ça.
avis.
Je compte sur ça. Le fait qu'il ait une off-season complète avec nous, ça peut que lui faire du bien. Si ça suffit pas, voilà, j'aurais plus d'espoir, hein, mais.
Non, mais c'est ça, tu vois, je me dis, un peu comme Mathieu, là, je me dis, bah, c'est l'intersaison pour lui qui va être déterminante, les camps d'entraînement, notamment de début de saison. Ben, parce que c'est un joueur qui a du potentiel, mais à l'heure actuelle, ben, il le montre pas spécialement et ben, ça se dirige tout doucement vers un bust. Donc, après, voilà, si on peut réussir à convertir ce qu'on a envoyé à Jacksonville en un superbe joueur, pourquoi pas, mais. Ouais, voilà, vraiment l'intersaison qui arrive va être déterminante, quoi.
Un dernier mot juste rapidement pour mentionner AJ Bouye et surtout Myles Hartsfield que moi j'ai beaucoup aimé hein, sur la fin de saison notamment il a eu un peu plus de temps de jeu, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de la part de Myles Hartsfield et AJ Bouye avait été aussi très bon en début d'année donc voilà, je ne sais pas si on gardera les deux je crois que AJ Bouye il y a une petite économie de dollars à faire si on le cut, si on décide de filer le rôle de slot un peu plus à Hartsfield ou à CJ Anderson, je ne sais pas. Mais non, effectivement, on a des cornerbacks qui sont quand même assez intéressants sur le papier. Des joueurs intéressants, on en voit aussi au niveau des safeties, avec bien évidemment l'indéboulonnable Jeremy Chinn, qui a encore fait plus de 100 plaquages sur la saison. On avait des doutes par rapport à son replacement, hein, lui qui avait été plutôt linebacker la saison dernière. Mathieu, qu'est-ce que toi t'as repensé du fait de remettre Jeremy Chinn en safety? Et est-ce que, a priori, il semblerait qu'il revienne peut-être un petit peu plus dans la boîte éventuellement l'année prochaine? Quel est ton avis là-dessus?
Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'en safety, c'est peut-être moins flashy, moins impressionnant que quand on le voyait beaucoup niveau linebacker, mais c'est tout aussi solide. Après, peut-être que le laisser en safety, ça, du coup, on se prive un petit peu de certaines de sa versatilité, de son côté versatile qui est super intéressant du coup quand il est plus proche de la boîte. Donc, je suis pas du tout contre. Même, je suis plutôt content s'ils considèrent le fait de le refaire jouer un peu plus un linebacker, et je pense que enfin je trouve que Jeremy Chinn, bah c'est dommage de se priver d'un peu de son côté couteau suisse, et donc c'est bien de pouvoir le faire tourner un peu, surtout que lui ça a pas l'air de l'embêter, et je trouve c'est intéressant de pouvoir profiter de ce côté-là.
Non, ouais, plutôt d'accord. Après, si j'ajouterais bah, sur le corps de linebacker, peut-être un peu. Enfin, je reviens dessus pour reparler de Jeremy Chinn, mais un peu la déception sur ce corps de linebacker, ça a été un peu Jermaine Carter, où j'attendais un peu plus. Et du coup, je me dis que bah, si on part sans Jermaine Carter sur la saison prochaine, bah, on aura peut-être un peu plus de Jeremy Chinn qui sera de retour, du coup, sur ce poste-là. Après, voilà, comme dit Mathieu, le gars, c'est un couteau suisse, autant s'en servir, quoi. Mais je pense que du coup, il faudra aussi chercher un peu de monde sur le poste de safety.
Parce qu'il, alors sur le papier, effectivement, je vous rejoins là-dessus. Ce qui me pose un peu plus question, c'est que si on le remet effectivement en linebacker, étant donné qu'il était plutôt, j'allais dire, hybride, nickel, outside linebacker, il viendrait un peu en conflit avec le poste de edge de Hassan Reddick, par exemple, ou alors de Shaq Thompson, qui étaient plutôt effectivement des linebackers outside, contrairement à Carter, qui était plutôt un middle linebacker. Donc je ne sais pas si on peut juste faire un remplacement poste pour poste comme ça. Après, il serait peut-être très bon en middle linebacker, mais je ne sais pas si ça peut être aussi simple. Après, ce sera peut-être juste, voilà, c'est une idée qu'a mentionné Phil Snow. Ce sera peut-être juste, voilà, ponctuel, à voir comment ça pourra se travailler. Et ça dépendra peut-être aussi effectivement de ce qu'il advient d'Hassan Reddick la saison prochaine. Mais, au niveau des autres joueurs qui composaient ce corps de safety, je ne sais pas s'il y a un nom qui est plus sorti du lot pour vous entre que ce soit Justin Burris, Chen Chandler, Kenny Robinson, tous ces joueurs-là, ils qui ont un petit peu alterné. On a plus vu Kenny Robinson sur la fin de saison et un peu plus Justin Burris au début. Est-ce qu'il y a un nom qui vous inspirait plus que les autres ?
Non, moi honnêtement, je trouve que effectivement, voilà, en fin de saison plutôt Robinson, en début de saison plutôt Burris. Sinon, ils ont tous eu quelques flashs à certains moments, ils ont tous réussi un peu à tirer leur épingle du jeu, mais je pourrais pas isoler un joueur en particulier sur la saison.
Non, tout pareil pour moi, tout pareil. Non, il y a pas eu spécialement d'impact player autre que Jeremy Chin. Enfin, je veux dire, en termes de nom sur le poste de safety, non, il y a pas.
Ce sera peut-être un poste effectivement à considérer, que ce soit à la draft ou alors en free agency, peut-être, ce sera à suivre.
Après, c'est quand même un groupe solide, je trouve, et peut-être qu'il suffirait juste d'installer quelqu'un, vraiment, un de ces joueurs-là, et de lui donner un rôle un peu plus important, et ça suffirait pour qu'il prenne plus d'ampleur. J'ai l'impression que peut-être trop de rotation, peut-être peut tuer la rotation. Je pense que le groupe est quand même solide, et qu'on peut, on peut bosser à partir de ce groupe.
Eh bien, peut-être un mot justement sur Phil Snow, qui a coordonné tout ça. Est-ce que vous avez été satisfait pour cette deuxième saison? On avait eu des doutes lors de son arrivée, et il nous avait plutôt bien satisfait l'année dernière. Là, cette année, il a confirmé globalement, ou alors vous avez un avis différent du mien?
Bah, écoute, moi personnellement, Phil Snow, ça m'a bien plu sur cette saison. Voilà, après, bon, c'est qu'on a des points à modifier. Globalement, la défense, elle a quand même bien tenu sur toute la saison. Voilà, il y a eu certes quelques matchs où c'était quelques drives, quelques cartons où c'était peut-être un peu moins bon, on s'est un peu fait entre guillemets rouler dessus. Mais pour moi, faut vraiment mettre ça en perspective avec le fait que, ben, comme l'attaque réussit pas à avancer, mécaniquement la défense passe plus de temps sur le terrain. Ça tient super bien au début, puis ben, au bout d'un moment, nécessairement, ça fatigue. Mais du coup, voilà, pour moi, Phil Snow, je suis plutôt satisfait. Voilà, il faut essayer de consolider tout ça. Arriver à garder les éléments clés, et puis et surtout, regarder pour compléter le coaching staff par poste.
Non, moi, je te rejoins. Je suis très content de Phil Snow sur cette saison. Plus aucun doute sur lui. S'il y a bien un membre du staff pour moi qui on peut avoir confiance, c'est lui, comparé à d'autres. Ouais, enfin, voilà, pas grand chose de plus à ajouter, très content aussi.
D'accord, bon, bah, on se rejoint à peu près. J'avais juste une question pour vous allez me dire ce que vous en pensez. S'il y a un petit point qui m'inquiète un petit peu, ou que sur lequel je surveillerai un peu, c'est que. Alors. Enfin, quand on regarde les classements, effectivement, la défense des Panthers est classée assez haut. J'ai quand même un petit peu de mal à la considérer comme vraiment top niveau, dans le sens où j'ai quand même l'impression que c'est une défense qui a besoin que l'attaque fasse un minimum, et qui est très bien pour, entre guillemets, peut-être tenir un score, mais pas. Ça me semble pas être une défense vraiment lockdown. Pour vraiment tout verrouiller sur un moment important ou quoi. Je sais pas si vous avez ce même sentiment, ou alors c'est moi qui vois à côté.
C'est vrai que des fois, voilà, il y a ce côté un peu où ça craque un peu à des moments où on se dit tiens, c'est étonnant que ça craque. Après, pour moi, tu vois, c'est. À l'heure actuelle, je dirais qu'on a tout de même une des meilleures défenses de NFL, mais que. Qu'il faudrait voir, en fait, avec une attaque qui est capable de faire quelque chose, un minimum. Déjà pour redistribuer peut-être un peu plus le temps de jeu des deux côtés, même si, voilà, même si l'attaque surperforme pas non plus, hein, mais voilà, défensivement, je pense que ce serait un bon test à voir. Après, oui, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, mais dans l'état actuel des choses, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en NFL qui seraient contentes d'avoir une telle profondeur et une telle qualité défensive, quoi.
Ok, bon, rien d'alarmant alors, si j'en conclus si je comprends bien ce que vous dites. Un mot rapide quand même sur les special teams, parce que c'est vrai qu'on a fait l'attaque, on a fait la défense, on n'a pas dit de mots sur les équipes spéciales. JJ Johnson, indéboulonnable, toujours là, toujours agent libre. Alors, on sait que les Panthers ont drafté un long snapper l'année dernière, donc on verra si Thomas Fletcher peut cette fois prendre le poste. Une mention quand même pour Zane Gonzalez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu quand même pendant des années des problèmes de kicker avec notamment Joey Sly. Là, Zane Gonzalez, c'était quand même très solide cette année. Bel dommage qu'il se blesse sur la fin de saison, mais belle satisfaction.
Ouais, non, c'est ça, tu vois, comme tu disais, avant c'était pas spécialement la joie, autant là, bah, cette année on a retrouvé quand même un kicker qui était capable de nous passer des pénalités sur à peu près toutes les lignes du terrain. Donc ça fait concrètement ça fait plaisir. Bon après c'est dommage, il se blesse un peu bêtement sur la fin de saison, mais voilà, j'ai confiance en lui pour la suite.
Très bien, et puis bah, le punter, hein, on a dit au revoir à Joseph Charlton qu'on avait bien aimé la saison dernière, mais qui malheureusement pour lui n'a pas confirmé. Et son remplaçant, je ne suis pas sûr que on soit pas à nouveau à la recherche d'un punter l'année prochaine, donc à suivre ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres priorités. Justement, de la même façon qu'on avait fait pour l'attaque lors de la précédente émission, quel est pour vous votre move à faire en défense cette intersaison? Je crois que Thomas, tu nous as déjà un petit peu aiguillé sur le tien tout à l'heure. Alors je vais te laisser la parole pour nous le confirmer, mais j'ai une petite idée de ce que tu vas nous dire.
Ouais, non, bah, très clairement, pour moi, tu vois, faut aller vers Reddick. Bon, après, voilà, on est sur les discussions, sur les paroles des joueurs en fin de saison. Lui, il a l'air chaud pour repartir. Pourtant, on pourrait se dire que l'ambiance a été peut-être un peu morose dans le vestiaire. Il est quand même OK pour repartir sur une saison avec nous. Donc, faut voir après à quel prix. Mais clairement, pour moi, on re-signe Reddick. Et puis après, on arrivera sur le fameux dilemme des corners Nantais ou Stephon Gilmore. Mais bon, ça, c'est un peu plus loin.
Ok, bah du coup si Thomas choisit Reddick, moi je choisis de prolonger, enfin de signer Dante Jackson et Stephon Gilmore afin de d'avoir une cornerback room l'année prochaine composée de Stephon Gilmore, Dante Jackson et JC Horn qui fera peur à n'importe qui et qui sera super à voir sur une saison entière en espérant qu'ils arrivent à rester en bonne santé toute la saison.
Une Legion of Boom 2.0 qui ferait plaisir à Scott Fitterer, ma
Oui,
foi.
oui. Et je pense que ça peut ramener du public dans le stade aussi.
C'est possible. Moi, je serais parti soit sur le fait de vraiment avoir un autre bon joueur d'intérieur de ligne défensive, mais peut-être mon move numéro un, ce serait de trouver un vrai inside linebacker. Pour remplacer Jermaine Carter, avoir un. On sait de qui il a dû prendre la suite et que c'était très compliqué. Mais voilà, de retrouver un vrai bon inside linebacker. Je pense que c'est peut-être le poste qui, pour moi, a le plus péché en défense cette année. Donc je serais intéressé d'avoir un vrai bon middle linebacker pour cette intersaison. Très bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de toute cette défense des Panthers version 2021. Merci Thomas, merci Mathieu.
Mais écoute, merci à toi.
Nous, pour la suite, on va voir un peu la suite des événements, notamment avec l'actualité des Panthers qui va suivre sur les prochaines semaines. Et puis, on sera toujours là sur Twitter, bien évidemment, et on enregistrera peut-être une émission sur les prochaines signatures, rumeurs et infos d'ici quelques semaines. D'ici là, merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous une prochaine fois. Ciao.
Ciao, ciao.
À bientôt.